VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Nouakchott, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Mauritanie, les autorités ont fermé lundi soir le centre de formation des oulémas, une école de théologie à Nouakchott, accusée par le gouvernement de dispenser un enseignement islamiste extrémiste en relation avec le mouvement des frères musulmans. La mesure fait suite à la mise en garde contre l'islam politique lancée le 20 septembre par le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, alors que le parti islamiste Tewassoul a confirmé son statut de principale force d'opposition dans le pays aux récentes élections législatives et locales largement remportées par le parti au pouvoir. Il n'est pas normal qu'un seul parti utilise et s'accapare l'islam, avait déclaré le chef de l'État. Ce n'est pas acceptable et ce ne sera plus accepté dans l'avenir, avait ajouté le président Abdelaziz en qualifiant l'islam politique d'idéologie dangereuse qui a détruit des nations entières. En Côte d'Ivoire, divorce entre le PDCI et le parti du président Alassane Ouattara. Les raisons de cette rupture avec Georges Ibrahim Tunkara, le correspondant de VOA Afrique à Abidjan.
Au terme d'une réunion de son bureau politique à Daoukro, la région natale de son président Henri Konan Bédié, le PDCI s'est donc prononcé en faveur de la rupture avec le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, une coalition mise sur pied en 2005 avec d'autres formations politiques dans le RDR d'Alassane Ouattara et qui a contraint Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir à la suite des élections de 2010. Mais depuis des mois, et surtout depuis son bureau politique du 17 juin dernier, le PDCI avait pris ses distances vis-à-vis de cette coalition. Au centre de la discorde, le projet de création d'un parti unifié auquel la formation d'Henri Konan Bédié s'est montrée peu favorable et la question de l'alternance à la tête du pays en 2020. Désormais libre de tout engagement, le PDCI se dit prêt à engager des négociations avec d'autres forces politiques en vue de la mise en place d'une nouvelle alliance. Pour plusieurs observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire, avec le retrait du PDCI du RHDP, c'est une nouvelle période d'incertitude qui s'ouvre pour le pays. Après 8 ans de stabilité et à 2 ans de la présidentielle de 2020, Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique, Abidjan.
Ebola en RDC, mise en garde de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a suspendu ses activités à Beni, province du Nord Kivu dans l'est du pays, après le massacre d'une 20aine de personnes. Peter Salama, directeur général adjoint de l'OMS en charge des réponses d'urgence, a averti aujourd'hui qu'une conjonction optimale de facteurs menace la réponse humanitaire à l'épidémie d'Ebola dans le pays. Selon lui, plus de 80% des personnes menacées d'un risque immédiat d'Ebola n'ont pas pu être atteintes à Beni dans ses environs lundi à cause de la suspension. La tuerie de samedi soir fait 21 morts, 17 civils et 4 militaires. Les habitants de Beni ont décidé de prolonger leur grève générale jusqu'à vendredi pour protester contre ce massacre attribué par les autorités congolaises aux miliciens ougandais des ADF, les forces démocratiques alliées présentes dans la région. En Angola, José Filomeno dos Santos, ancien patron du Fonds souverain national et fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos, est en détention provisoire depuis lundi. C'est dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds portant sur 1,5 milliard de dollars. Nani Talani.
Dans un communiqué, le procureur général Alvaro da Silva Joao a expliqué qu'en raison de la complexité et de la gravité des faits, et afin de garantir l'efficacité de l'enquête, le ministère public a décidé d'appliquer aux accusés une mesure de détention préventive. Selon lui, les éléments rassemblés dans le dossier constituent des preuves suffisantes que les accusés se sont engagés dans des activités de corruption. L'homme d'affaires angolo-suisse Jean-Claude Bastos de Mouret, un des proches de José Filomeno dos Santos, qui a géré une partie du fonds souverain, a lui aussi été placé en détention provisoire. En mars dernier, le fils dos Santos, surnommé Zenou, avait été inculpé pour avoir ordonné des virements suspects alors qu'il dirigeait le fonds souverain angolais. Jusque-là sous contrôle judiciaire, il avait alors promis de collaborer avec la justice. Nommé en 2013 par son père à la tête d'un fonds souverain, José Filomeno dos Santos a été limogé de ce poste en janvier dernier par le nouveau président de l'Angola, João Lourenço.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, la campagne électorale lancée samedi dernier pour la présidentielle du 7 octobre continue. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis novembre 1982, est de nouveau le candidat du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le chef de l'État fait face à 8 adversaires dans un scrutin à un tour. Quelles sont les chances des uns et des autres? Timothée Donangmaï a interrogé à ce propos Mathias Eric Owona Nguini, professeur de sciences politiques à l'université Yaoundé 2.
Le RDPC a de l'avance, mais il doit faire aussi face au fait que de nombreux segments de la population camerounaise sont en quelque sorte lassés de la longue présence au pouvoir, non seulement du président Biya, mais de son parti. Dans les formations d'opposition, le SDF bénéficie du rajeunissement entamé avec la candidature de Joshua aussi. Il entend déployer son appareil politique qui s'est constitué depuis une vingtaine d'années, qui est fortement ancré dans les régions du nord-est et du sud-ouest, même si le SDF a pu constituer des positions dans le littoral et l'ouest. Cette formation va pâtir de la situation critique qu'il y a dans les deux régions du nord-est et du sud-ouest en raison de la présence d'un mouvement armé sécessionniste. Le professeur Maurice Kamto amène un véritable marathon électoral depuis plusieurs semaines, espérant pouvoir faire face à l'implantation du RDPC. Le candidat Kéré Mouna, également, en s'appuyant sur un mouvement citoyen, le mouvement NOW, également essaie de se déployer. Le problème du candidat Mouna, c'est qu'il a récupéré un parti dont il n'était pas initiateur et un parti qui n'a pas une forte implantation. Le candidat Cabral Idi mise sur un répertoire politique qui est fortement tourné vers la soif du changement et surtout l'aspiration des jeunes à participer pleinement au processus politique et à obtenir l'alternance.
Vous avez parlé des troubles dans les zones anglophones du pays. Le Cameroun connaît également des problèmes de sécurité dans l'extrême nord avec les attaques de Boko Haram. Quelles vont être les incidences de ces deux situations sur le scrutin du 7 octobre?
Les situations ne sont pas strictement identiques, même s'il existe de manière résiduelle des violences dans l'extrême nord du Cameroun. La situation est globalement sous maîtrise, même si le potentiel menaçant de Boko Haram n'est pas complètement anéanti. La situation qui apparaît la plus préoccupante, c'est évidemment celle qui existe dans les régions du nord-ouest et du sud-est, les régions des anglophones, en raison de la présence de plusieurs groupes armés sécessionnistes. Mais ces dernières semaines, les forces de défense et de sécurité ont engagé une action de rétablissement de l'ordre qui semble porter ses fruits. On a ainsi vu les équipes du RDPC pouvoir commencer leur campagne dans les villes clés de ces régions, la Combamenda et Boya, qui étaient pourtant ces dernières semaines confrontées à l'action de ces groupes armés.
Le professeur Mathias Eric Owona Nguini de l'université Yaoundé 2 au Cameroun. À New York, plus que quelques heures avant le début officiel de la 73e Assemblée générale des Nations Unies sur le thème de leadership moral et responsabilité partagée pour des sociétés pacifiques, équitables et durables. Les leaders vont se succéder à la tribune à partir de ce mardi, après le très attendu discours d'ouverture du président américain Donald Trump. Plus de détails avec Raïssa Girondin.
Ce mardi, tous les yeux seront rivés sur le président américain Donald Trump. Il devra évoquer l'Iran. À la tribune, le gouvernement iranien a accusé l'Arabie saoudite et ses alliés occidentaux d'être à l'origine d'un attentat qui a causé la mort d'une vingtaine de personnes. Le conflit israélo-palestinien, la décision de l'administration Trump sur Jérusalem, le retrait du financement de l'agence de l'ONU aux réfugiés palestiniens seront autant de questions que Trump pourrait aborder. Un autre thème favori du président américain, c'est que les autres pays membres des Nations Unies doivent apporter plus au budget. Il avait déjà prévenu que les États-Unis ne veulent plus porter ce fardeau financier injuste selon lui. Parmi les grands absents notables figurent le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre indien Narendra Modi. Du côté africain, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président sénégalais Macky Sall et le président ivoirien Alassane Ouattara ne seront pas du rendez-vous. Les missions de maintien de la paix sur le continent seront certainement abordées, tout comme la question migratoire. À l'ouverture de cette 73e session, les pays membres ont rendu un hommage particulier à Nelson Mandela et son combat pour la paix. Raissa Girondin, depuis le Palais de Verre, New York.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Personnel.